Chers auditeurs, le conflit actuel en Ukraine est le plus impactant pour nous, Européens, car il a détruit les bonnes relations, surtout commerciales, avec la Fédération de Russie. Ce conflit amorce aussi la fin du règne occidental absolu sur le reste du monde et montre les limites d'une fuite en avant qui risque, dans le cas présent, de se terminer en désastre militaire, politique et économique. Les médias donnent rarement la parole à ceux qui expliquent une autre réalité que celle exprimée par des médias dominants répétant la version voulue par l'OTAN. Le conflit en Ukraine est la bataille finale d'un impérialisme arrogant prêt à mettre l'Europe à feu et à sang pour nuire à la Russie. Le principal rival historique d'une élite européenne encore au pouvoir est directement issu de familles qui, à l'époque, ont propulsé le Troisième Reich, richement représenté parmi les membres fondateurs d'institutions comme l'OTAN, l'ONU, le WEF et même l'Union européenne. La peste brune porte aujourd'hui comme hier des costards et des cravates et elle ne se limite pas à quelques néo-nazis tatoués. Pour donner la parole à une de ces voix trop peu entendues, nous avons le plaisir de vous proposer un entretien réalisé en mai par nos collègues de Swissbox Conversation avec Jacques Beau, ancien colonel d'état-major général suisse, ex-membre du renseignement stratégique spécialiste des pays de l'Est. Un contenu très riche de passer 3 heures qui valent le détour et que nous avons découpé pour vous en 6 épisodes d'une trentaine de minutes chacun, plus pratique à écouter. Vous allez écouter le 5e épisode de cette série. Retrouvez tous les épisodes en cherchant le numéro 16202 sur le site radiolibre.ch. Bonne écoute.
Vous écoutez Radio Libre.
J'ai entendu des chiffres de ratio qui diraient que pour un Russe tué, il y aurait entre 5 et 8 Ukrainiens tombés. Est-ce que dans tes informations, c'est quelque chose qui serait crédible ou pas?
Non, ce n'est pas crédible. Je pense que c'est 1 à 10 ou 1 à 12. Et certains même disent 1 à 40. Mais ça, j'y crois pas trop.
Oh. Ouais. Ça voudrait dire que là, l'Ukraine se fait massacrer.
Mais c'est un fait.
C'est pas ce qu'on entend dans nos médias.
Ah non, c'est pas ce qu'on entend dans nos médias. Non, ça, c'est un fait. La question, c'est savoir dans quel ordre de grandeur elle se fait massacrer. C'est la seule question qui se pose. Mais que l'Ukraine ait massivement plus de pertes que les Russes, ça, à mon avis, ça doit être compris comme un fait.
Tu as vu des indications qui tendraient vers ça dans les différentes sources dont tu nommais tout à l'heure, les médias ukrainiens et autres?
Oui, oui. Et donc là, on est... Alors après, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. La réponse honnête à la question des pertes de russes comme ukrainiennes, d'ailleurs, hein, les deux, la réponse honnête, c'est on ne sait pas. Ça, c'est la réponse honnête. En fonction de ce qu'on a vu sur le terrain, de la manière dont les opérations se déroulent, la manière dont les décomptes ont été faits, notamment l'opposition russe, a fait des décomptes des pertes russes. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que le décompte des pertes russes faites par l'opposition russe est à peu près 10 fois plus faible que ce que nous disent des médias comme la radio-télévision suisse ou LCI, etc. Donc ça veut dire que nos médias ont encore brodé par rapport à ce que dit l'opposition russe. Qui est l'opposition russe? Donc c'est Navalny et compagnie, financés par les Occidentaux. Donc on peut pas leur prêter l'idée qu'ils soient pro-Poutine. Et leur calcul, c'est pas des estimations, c'est des calculs, ou des estimations éclairées, si on veut, mais c'est assez robuste quand même ce qu'ils ont fait, je dois dire. D'après ce qu'ils disent, on est 10 fois en dessous de ce que racontent nos médias. Ça commence par là.
OK.
Et quand on regarde le déroulement...
Pour les pertes ukrainiennes. Donc.
Pour les pertes russes.
Russes.
Les pertes russes sont 10 fois inférieures. Les pertes russes calculées par l'opposition russe sont 10 fois inférieures à ce que disent nos médias.
Et qu'est-ce qu'ils disent nos médias? J'ai entendu parler de 100 000. On serait à ce genre de chiffre.
150 000, 200 000, voilà, etc.
D'accord.
Voilà. Donc, 10 fois moins selon l'opposition russe.
Voilà.
Pour les Ukrainiens, à vrai dire, on est obligé de voir les résultats. Alors, il y a des organisations qui sont spécialisées dans le comptage des morts, d'après tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, d'après les avis mortuaires en Ukraine. Et puis, ils arrivent à des chiffres qui sont quand même, à mon avis, très élevés. Mais on s'approcherait de 400 000 ou je ne sais pas quoi.
Okay.
Ça me semble très élevé. Donc,
Colonel Douglas McGregor, qui est un ancien commandant de l'armée américaine, lui dit ouais, 300 000 au plus bas. Mais c'est des hypothèses.
On est au niveau de nouveau. Moi, les 400 000 que j'ai vus, c'est des gens qui l'ont calculé du côté ukrainien. Mm-hmm. Ils ont fait la même méthodologie que l'opposition russe pour les Russes.
C'est-à-dire qu'ils ont été chercher les noms ?
Ils ont été chercher les noms, ils ont été chercher les avis mortuaires, etc. Et ils arrivent à 400 000. Maintenant, de nouveau, est-ce que c'est fait avec sérieux ? Est-ce que... Moi, je pense qu'il faut être très, très prudent avec ce chiffre. Je pense personnellement que les pertes ukrainiennes sont davantage. Alors, ce qui est intéressant pour les pertes ukrainiennes, et la raison pour laquelle on peut, en tout cas, avancer le chiffre de 100 000 sans trop se tromper, c'est que lors d'un discours en novembre de l'année passée, Ursula von der Leyen a dit qu'il y avait plus de 100 000 soldats ukrainiens qui étaient morts.
Mmh. Donc ça, on ne parle même pas des blessés. En général, le ratio mort-blessé, d'ailleurs...
Oui, on dit 1 à 3, mais ça ne veut pas dire grand-chose.
Okay.
Et puis, c'est la différence qu'il y a entre... En anglais, on dit fatalities and casualties.
Ouais.
Alors, typiquement, par exemple, quand c'est les Russes, la radio-télévision suisse-romande prend casualties pour fatalities. Pour eux, c'est la même chose. Mm-hmm. Donc, ils mettent blessés et morts ensemble. Mm-hmm. Ça fait un gros chiffre contre les Russes, ça va bien. C'est un peu ça.
Ils font pas ça pour les Ukrainiens. Ils mettent...
Ah, pour les Ukrainiens, ils disent non, eux, ils n'ont pas de morts. Donc, il n'y a pas de morts. Il n'y a rien. Donc,
si, quand même. Des fois, ils disent quand même que
ouais,
c'est
lourd un ou deux,
pour les deux côtés.
Mais ils sont très partiaux pour ça. Mais bref. Donc, il y a cette différence, effectivement. Il y a les chiffres donc, des morts et les chiffres des pertes. Ce qu'on appelle les pertes militairement, c'est-à-dire c'est les gens qu'on a perdus, donc qui ne sont plus au combat, mais pour différentes raisons. Il y a la mort, il y a le fait d'être blessé, mais il y a aussi le fait d'être déserteur.
Oui, tu peux être capturé aussi, c'est possible.
Et capturé,
du nombre de capturés, même s'il y a aussi là beaucoup de crimes de guerre, certainement des deux côtés.
Oui, bon, il y en a certainement, ça, alors je ne veux certainement pas m'avancer sur ces questions, parce que là, mais il y a énormément de personnes capturées. Alors ça, on le sait, parce qu'il y a beaucoup d'unités qui, alors maintenant, c'est moins cette année, mais plutôt l'année passée, où on avait des unités qui annonçaient sur les réseaux sociaux qu'ils déposaient les armes.
Des unités ukrainiennes, russes, les deux ?
Ukrainiennes. Et les Russes leur envoyaient des petits
flyers.
Ouais, des flyers, comment on dit,
des tracts.
Mm-hmm. Des tracts disant, si vous voulez vous rendre, voilà la marche à suivre. Vous vous filmez en groupe, tous ensemble, avec vos armes, et votre chef, il doit être devant et il doit dire que vous êtes prêt à déposer les armes. Et que vous êtes volontaire pour déposer les armes. Et voilà, enfin, il y a quelques dizaines de points à respecter. Et puis, vous envoyez ça sur les réseaux sociaux, puis nous, on vient vous chercher. En gros, c'est ça. Et il y a des unités ukrainiennes qui ont fait ça, effectivement, dans le Donbass. Ils ont dit, voilà. Donc, il y a toutes les armes, on voit le nombre d'armes, le nombre de gars, 10 mecs ou 15, ou etc., et puis, ils disent, voilà, donc on a décidé d'arrêter de nous battre, etc., pour des raisons X, Y. Et les Russes sont venus, les ont pris, ils savent le nombre d'armes. Il n'y a pas de violence parce que les gars ont décidé. On a la vidéo, donc on sait qui est le responsable, on sait qui est le chef, qui est le counterpart du groupe, etc. C'est une idée pas con, d'ailleurs, de la part des Russes. Et ça a permis à des unités, des groupes, des sections, des pelotons, enfin, selon comment on les appelle dans nos pays, qui se sont rendus comme ça. Donc, on sait qu'il y a, on arrive à estimer le nombre des gens qui se sont rendus. Donc, il y a ça. Il y a les déserteurs. Alors, ça, on ne sait pas combien il y en a, mais ça doit être un nombre assez significatif puisque au début de cette année, fin de l'année passée, début de cette année, ils ont réémis une nouvelle loi contre la désertion.
Les Ukrainiens, non.
Les Ukrainiens.
Oui, les Russes, pas.
Non.
Ils n'ont pas changé de...
Et ils ont durci la loi. Et le général Zeloujny, qui est le commandant en chef des forces ukrainiennes, a approuvé cette, cette règle ou cette directive.
Qu'est-ce qu'il arrive d'ailleurs quand quelqu'un décide de...
Ah, les officiers ukrainiens. Alors, maintenant, c'est dit avec beaucoup de c'est dit dans, dans les textes, avec beaucoup de comment dire, d'euphémisme, mais il a le droit de flinguer ses mecs.
Aussi simple. L'exécution. En Russie, si on, voilà, si on fait la même chose en Russie, quelle est la...
Je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas parce que je n'ai jamais, j'ai pas vu ce cas, j'ai pas vu ce cas mentionné dans le terme de loi et de règles. Ça existe certainement. Je ne sais pas. La réponse, je ne sais pas. Mais l'Ukraine, je sais parce que ça fait l'objet d'une loi. Déjà en 2017, il y a eu ça.
Ils ont révisé ces lois.
Ils avaient déjà fait une loi comme ça juste après les conflits de Donbass qui avaient conduit aux accords de Minsk. Et ils ont fait une loi où ils voulaient justement interdire, ils voulaient autoriser les commandants à abattre sur place les soldats qui refusaient de se battre. Finalement, la loi n'a pas été prise à ce moment-là, c'est en 2017, cette loi, sauf erreur, ou cette proposition de loi, elle n'a pas été acceptée. Et je crois que sous une forme différente, ils l'ont fait ressortir cette année, parce que le problème, c'est que les soldats, aujourd'hui, effectivement, ont peur.
C'est le but d'ailleurs de ce genre de loi hein, pour éviter les désertions quand même.
C'est exactement
c'est le but,
ça.
C'est leur faire
ta peur. Tout à fait, oui, c'est ça.
Et selon toi, quels sont un peu les états généraux de maintenant? Parce que effectivement, tu le dis, il y a beaucoup de pertes, mais ça fait beaucoup de temps qu'on dit qu'il y a beaucoup de pertes quand même. Et puis, il y a la Russie qui grignote, mais qui grignote. Hein, c'est pas.
Elle grignote rien.
Ça avance un peu quand même.
Le
par
but,
endroit.
Non. Alors,
qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Parce que je me rappelle la première fois que tu es venu là, on a regardé les cartes et effectivement, tu as montré que tu t'imaginais, enfin, c'est une possibilité, tu n'as pas fait de prédiction, hein, mais que c'était possible qu'encore un gros bout, c'est-à-dire en tout cas 20% de plus, parce que là les Russes sont à peu près 20%, à la fin de la guerre, dans les mains plutôt russes. Où est-ce que tu en es par rapport à
alors,
cette réflexion de comment ça avance,
dans le terrain,
où ça va?
Les Russes n'ont pas beaucoup changé, mais ce qui s'est passé, le changement a eu lieu en fait en septembre, fin septembre, début octobre de l'année passée, où il y a eu ces référendums dans les quatre républiques du sud de l'Ukraine, donc c'est Kherson, Zaporozhye, Donetsk, et Lugansk.
Des référendums d'accession à la Russie,
d'indexation. Pour rejoindre, non pas d'annexation, parce que c'est pour rejoindre la Russie.
Ok. D'adhésion à la Russie.
D'adhésion à la Russie, voilà. Et à ce moment-là, en même temps que ça s'est passé, les Russes ont restructuré leurs forces, ils ont nommé le général Sourovikine commandant en chef des forces en Ukraine, ils ont créé parce qu'avant, il y avait... Jusqu'en septembre de l'année passée, il y avait donc, en fait, trois armées qui se battaient contre les Ukrainiens. Il y avait l'armée russe, il y avait la milice de Donetsk et la milice de Lugansk. D'où d'ailleurs des frictions, parce que ces trois armées différentes. Alors, les deux, les milices de Lugansk et de Donetsk, très petits, mais c'est des gars très décidés et tout, qui se battaient dans le Donbass, dans des zones qu'ils connaissaient, dans des zones où ils avaient de la famille, etc. Donc, effectivement, ces armées avaient un petit peu presque leur propre dynamique par rapport aux Russes. Et bref, mais avec l'intégration de ces républiques dans la Russie, ces milices sont devenues partie de l'armée russe. Donc, ça veut dire qu'il a fallu restructurer le commandement, parce que le commandement, il y avait un chef russe, mais il y avait des sous-chefs, des milices dessous. Donc il y avait une coordination, en réalité, entre ces trois armées. Mais à partir du moment où ces trois armées ont fusionné en une seule, eh bien, on a une chaîne de commandement tout à fait normale qui se met en place. Et donc, il a fallu organiser cette nouvelle chaîne de commandement. C'est la raison pour laquelle à ce moment-là, il y a eu les événements de Kharkov au nord-est et de Kherson au sud-ouest, que les Russes ont dit, on ne va pas s'amuser à défendre ça, alors qu'on est en train de restructurer nos forces. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont retirés d'abord de Kharkov, enfin de la région de Kharkov, et à peine ils se sont retirés que les Ukrainiens
ont repris le territoire.
Sont venus sur ce territoire. Et là, exactement la même chose s'est passée à Kherson. Les Russes se sont retirés. Et là, les Ukrainiens, même avec un peu de retard, les Russes ont été surpris de voir que les Ukrainiens étaient lents à la réaction, parce que les Russes avaient quitté le territoire, puis les Ukrainiens sont venus. Donc, déjà, une indication intéressante, parce qu'on dit toujours, les Ukrainiens ont reconquis ces territoires, etc. Non, ils ont repris ces territoires, c'est clair, mais ils ont repris parce que les Russes ont dit, ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, si ceux qui auront lu mon livre « Opération Z », qui a été écrit donc, en été de l'année passée, j'ai fait une carte qui date de juillet 2022, où on voit que dans ces deux régions, Kharkov et Kherson sont les régions où il y a la plus faible densité de troupes. Parce que les Russes n'ont jamais eu l'intention de garder ces trucs. Donc ils avaient une très faible densité de troupes, parce que là, c'est vraiment du petit combat qu'ils voulaient faire, rien d'autre. Et quand ils ont, en septembre, quand ils ont décidé d'intégrer les républiques, refaire les structures de conduite, les structures de commandement, ils ont dit, bon, on va ramener toutes nos troupes. On consolide ce qu'on a, parce qu'on ne va pas faire la guerre avec une chaîne de commandement qui est en train d'être structurée. Ça, c'est la meilleure recette pour perdre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont abandonné ces deux territoires aux Ukrainiens. D'ailleurs, il n'y a pas eu de bataille, ni à Kharkov, ni à Kherson. Mais les Ukrainiens ont perdu des milliers d'hommes, alors qu'il n'y a pas eu de bataille. Parce que les Russes se sont retirés, mais quand les Ukrainiens sont arrivés, ils ont accueilli avec l'artillerie. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est...
Mais du coup, quel est l'objectif stratégique aujourd'hui de la Russie ?
Alors, attends, je vais revenir peut-être à ce que tu me disais tout à l'heure. Alors, ce qui s'est passé, donc, les Russes ont consolidé ce qu'ils avaient au sud, et puis ils ont dit, et ça a été dit d'ailleurs par le général Sourovikine, le 18 octobre de l'année passée, il a dit, nous ne voulons plus faire de grandes opérations et d'avancer. Ça, on ne fait plus. Maintenant, on broie. Ils ont utilisé le terme broyer, donc le moudre en russe. Hein, c'est carrément
crush.
Ouais, ouais, voilà. On écrase tout ce qui se présente devant nous. Voilà. Et ils ont fait ça pourquoi ? Il faut comprendre que. Il faut revenir de nouveau, il faut toujours partir du début. En février 2022, le 24 février, Vladimir Poutine a dit qu'il avait deux objectifs pour l'opération spéciale. La dénazification et la démilitarisation de la menace contre les populations du Donbass. Il n'a jamais parlé de Kiev, de s'emparer de l'Ukraine, etc. Il a dit on veut supprimer la menace militaire et la menace des extrémistes sur la population du Donbass. Le 28 mars, c'est-à-dire alors que Mariupol était encerclé, c'était le foyer du régiment, bataillon, brigade Azov, les Russes ont considéré que l'objectif de dénazification était obtenu. Parce que pour eux, c'était ça. C'était les milices Azov, c'était des extrémistes. À partir du moment où ils étaient encerclés dans Azov, on peut dire que le problème est réglé. Et le 28 mars, les généraux russes ont dit, problème dénazification terminé. Donc, ça fait maintenant plus d'une année que cet objectif est atteint. La démilitarisation, maintenant, visait à démilitariser la menace de nouveau sur la population du Donbass. Et ça a été atteint à la fin mai 2022, matériellement. C'est-à-dire qu'à partir de fin mai 2022, le potentiel matériel de l'Ukraine a été détruit. Les avions, les chars, tout ça, considéré comme détruit par les Russes. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que Zelensky demande d'avoir des armements occidentaux. Et il y a même un magazine, maintenant je n'ai plus en tête, je ne sais pas si c'est Le Temps, enfin je peux me tromper, qui a dit à partir de c'était le 12 juin ou pas, il a dit à partir de ce moment-là, l'Ukraine dépend de l'Occident. Donc ça veut dire que l'Ukraine avait perdu son potentiel matériel et à partir de mai, il compte sur les Occidentaux pour avoir le matériel nécessaire. Donc ça veut dire que cette démilitarisation, cet objectif de démilitarisation a été matériellement atteint fin mai 2022.
Sauf qu'ils se sont reconstruits du coup donc.
Alors, sauf qu'ils se sont reconstruits partiellement. Parce qu'il y a
le temps qui avance.
Non, c'est pas ça. C'est autre chose.
Je te dirais, mais effectivement, dans 15 minutes, ce sera 4h30. Peut-être qu'on peut encore faire un petit moment.
Je reviens sur
pas de souci.
Je reviens sur ce que je voulais dire. Donc, à partir de ce moment-là, les Occidentaux amènent du matériel, mais évidemment toujours des troupes. Et c'est là, on était fin de l'été 2022, que les Russes disent maintenant on va broyer, c'est-à-dire maintenant on va vous amener les armes. Ok, on n'arrivera pas à arrêter les armes, mais on va détruire les utilisateurs. En gros, c'est ça. Donc il y a eu le premier objectif, c'est de détruire le matériel. Vous amenez du matériel, ok, ben, on va détruire les utilisateurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est l'explication de ce qu'a dit Sourovikin en octobre, il a dit maintenant, vous amenez des armes, d'accord, maintenant on va broyer tous vos types. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que depuis, on a ces vagues de mobilisation qui se succèdent, et on a commencé un durcissement de la loi militaire, parce que, évidemment, que non seulement il y a des gars qui meurent, mais il y a des gars qui partent, qui ont peur, qui désertent, qui se rendent, etc., etc. Et donc, là, il y a... je vais devoir...
Tu dois faire quoi? Tu dois répondre un message?
Non, c'est... Bon.
Non, vas-y, fais ce que tu dois faire. Il n'y a aucun problème.
Je
peux parler aussi pour meubler un petit moment. Si les gens qui nous regardent... Parce que je crois qu'on a battu un grand record, Jacques. Tes analyses semblent être... écoutées, ou en tout cas respectées, ou intéressantes aux yeux et aux oreilles de nos auditeurs et auditrices, puisqu'on a à peu près fait exploser tous les records d'audience en direct, avec 1624 personnes qui sont là devant leur écran, ou en tout cas sur cette chaîne. Et puis, bah, merci d'avance à tous ceux qui sont là de nous soutenir en nous likant, en partageant, et puis surtout en vous abonnant.
Voilà, voilà. Alors je continue maintenant.
Merci, ça m'a permis de faire de la
merci.
Comme donc, ça, on pourra en faire plus.
Donc, on a, encore. À partir d'octobre, la décision, c'est qu'on n'avance on avance pas. Le but, ce n'est pas d'avancer. Le but, c'est de détruire les gars qui sont en face de nous. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a cette débauche d'artillerie. Donc, il faut savoir que peut-être pour donner une comparaison. En Afghanistan, les Américains tiraient 300 obus d'artillerie par jour. Ils en produisaient 400 par jour, donc 12 000 par mois. Et ils en tiraient 300 par jour. En Ukraine, les Ukrainiens tirent en moyenne 4 000 obus par jour. Alors, quand on parle d'obus de 155 mm fournis par les Américains, donc les Américains en produisent 12 000 par mois et les Ukrainiens en tirent 4 ou 5 000 par jour.
Donc, en 3 jours, c'est fini.
En 3 jours, c'est fini.
Ceux des États-Unis, il y en a certainement qui viennent d'ailleurs.
Oui, il n'y a pas beaucoup qui viennent d'ailleurs. Donc, ça,
donc les stocks, donc là, c'est pour ça qu'on peut dire que les stocks diminuent et sont presque épuisés.
Sont tombés. Et puis et même en Occident, les Occidentaux n'arrivent plus, les Américains n'arrivent plus à soutenir les Ukrainiens. Et de nouveau, Ukrainska Pravda, de nouveau, je cite des sources russes qui disent la production occidentale est dépassée par la consommation journalière des Ukrainiens.
Il paraît que trois quarts des morts sont dus à l'artillerie, c'est vrai?
C'est exactement ça. Parce que, de nouveau, les Russes ont dit, nous, on ne va plus risquer nos vies. Et c'est ce qu'a dit Souravikine. Il va dire, on va préserver nos soldats, mais on va détruire les autres. Et donc, c'est pour ça qu'on joue avec l'artillerie. Et...
les Russes?
Donc, 4000, 5000 coups tirés par les Ukrainiens par jour. Oui. Les Russes tirent 40 000 à 50 000 par jour. C'est-à-dire que les Russes tirent chaque jour à peu près deux fois ou trois fois toute la production occidentale de munitions de 155 mm.
Qu'ils produisent eux-mêmes.
Enfin, qu'ils produisent eux-mêmes, ils ont des stocks... mais bon, pour eux, ils tirent du 152 mm, mais ça, c'est une question de détail. Mais j'entends. C'est simplement pour avoir cette idée. Maintenant, on a parlé tout à l'heure des pertes. Et tu remarques que, en gros, les Russes tirent par jour 10 fois plus que les Ukrainiens. Mmh. Et quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que les Ukrainiens ont 10 fois plus de pertes que les Russes. C'est tout simplement logique. C'est pour ça que je pense que l'estimation qui a été faite tout à l'heure, que j'avais vue de 400 000, me semble très élevée, bien trop élevée. Je pense plutôt qu'on est dans... mais de nouveau, on est dans les estimations parce que personne n'a ces chiffres. Personne n'a ces chiffres exacts.
On base sur des choses.
Voilà, on essaye de faire une analyse. Mais le nombre de coups tirés, ça, c'est un fait. Mm-hmm. C'est un fait. Et ce qui est un fait aussi, c'est qu'actuellement, et c'est le grand problème des Occidentaux, ils n'arrivent plus à aider l'Ukraine. Et on retombe de nouveau dans ce qu'on a dit au début. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont engagés dans ce conflit un peu à l'instigation des Européens, qui les ont, pas les Européens, des Américains, qui les ont poussés à provoquer les Russes en disant « Vous inquiétez pas, on va venir avec nos sanctions, vous allez voir, on va régler le problème très vite. » Et non seulement le problème n'est pas réglé, mais aujourd'hui, les Américains n'arrivent tout simplement plus à suivre.
Donc la stratégie, c'est l'épuisement?
Alors la stratégie maintenant des Russes, c'est d'épuiser les autres. On pensait au départ, dans un premier temps, les Américains pensaient qu'ils allaient pouvoir épuiser les Russes. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que les Russes sont en train d'épuiser les Occidentaux. Et c'est là où on arrive à des situations qui sont très dangereuses. Parce que, et c'est les Occidentaux et les Ukrainiens d'ailleurs, sont pris entre leur discours et la réalité. Ils n'arrivent plus à suivre matériellement. Ils n'ont plus assez d'hommes. Ils n'ont plus assez de matériel. Ils n'ont plus assez de munitions. En plus, il faut comprendre ce que ça représente d'avoir... on parlait tout à l'heure de ces documents-là qui avaient fuité.
Pentagon Leak.
Et on a des brigades. Alors vous avez des brigades qui sont équipées de chars Léopard, des brigades qui sont équipées de chars... Challenger 2. D'ailleurs, là, un petit détail qui est assez amusant. Enfin, amusant, non, c'est un peu tragique quelque part. Les Anglais ont donné ces chars Challenger 2 aux Ukrainiens, mais avec beaucoup de réticence parce que ces Challenger ont un blindage qu'ils considèrent comme extrêmement confidentiel. C'est un peu leur arme secrète, ce blindage. Le blindage de ces Challenger, c'est un blindage appelé Chobham, qui existe depuis très longtemps d'ailleurs, mais qui apparemment est un blindage, voilà.
Un super blindage.
Et donc, ils ont donné ces chars aux Ukrainiens avec la condition que les Ukrainiens ne devaient pas les laisser tomber aux mains des Russes, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire...
c'est pas possible.
Non seulement c'est pas possible, mais ça veut dire que théoriquement, les soldats se devraient sacrifier pour que simplement un bout de ferraille ne tombe pas aux mains des Russes. Mm-hmm. C'est absolument follow, mais bref.
oui, c'est... Okay. Du coup, épuisement...
Donc on a une brigade avec tel type de char, une brigade avec un autre type de char, etc. Quand il y a des pièces de rechange qui manquent, on va les chercher où? C'est ça qui est assez... en fait, c'est une brigade qu'on a faite pour n'utiliser qu'une fois. C'est tout. Parce que pour les chars Léopard... que les Allemands ont fourni, c'est des Léopards
avec lesquels tu as travaillé.
A4, avec lesquels j'ai travaillé, j'étais comment, un bataillon de chars Léopard 2 A4. Donc c'est la version qui a été envoyée. Bon, la version suisse a été depuis modifiée, améliorée, mais c'est la version originale qu'ont les Ukrainiens. Ce Léopard 2 A4, c'est une version qui n'est plus en activité dans l'armée allemande. C'est la raison pour laquelle les Allemands les ont donnés aux Ukrainiens. Mais il y a certaines pièces de rechange qu'ils n'ont même plus pour ces chars. Donc c'est des chars qu'on a donnés à usage unique. Mm-hmm. Et là, quand on regarde tout ça, on est quand même obligé de se dire qu'il y a quand même quelque part une perfidie du côté des Occidentaux qui est assez fascinante. Parce qu'on leur donne du matériel dont on sait qu'ils ne pourront pas réutiliser. C'est à
en
usage
tout cas
unique.
Pas de manière efficiente. Parce que là, on attend.
À usage efficiente, on ne sait pas. Peut-être ils vont bien s'en occuper. Ça, c'est possible. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que s'ils ont un problème, on ne pourra pas revenir. C'est fini. C'est à usage unique. Mm-hmm. C'est un peu les trucs qu'on achète, on utilise et on jette. C'est exactement ce qu'on a fait avec le matériel qu'on leur a donné.
Ça jette quand même un peu d'ombre sur cette offensive à venir. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Va-t-elle avoir lieu ? Si oui, sous quelle forme ?
Vous venez d'écouter le 5e épisode de cette série de 6 sur l'Ukraine avec Jacques Beau, réalisé par The Swiss Box Conversation. Retrouvez les autres épisodes en cherchant le numéro 16202 sur le site radiolibre.ch.